Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Quelle joie pour moi de vous retrouver en ce début d'année scolaire. Merci à Radio Courtoisie de me permettre de vous retrouver chaque semaine et d'accueillir tous ces invités qui nous apportent tant. Cette année, nous aurons la joie d'accueillir encore de nombreux invités. Vous-même peut-être, si vous avez au fond d'un tiroir un manuscrit que vous aimeriez nous partager. Vous l'avez constaté l'an dernier, le thème de l'émission ne porte pas obligatoirement sur un fait religieux, mais il me semble important que son auteur soit croyant, car cela donne toujours une dimension à l'ouvrage qu'il est souvent subtil de démontrer. Alors n'hésitez pas à me contacter par le biais de la page contact du site de Radio Courtoisie, rc.fr, on ne peut faire plus simple. Alors, nous commençons l'année avec un grand saint, Saint Jean-Marie Vianney. Nous avons déjà parlé de lui avec d'autres auteurs, dont Patrick Sbalchiero. Mais cette fois-ci, nous allons avoir une autre approche. Et c'est Raymond Magnan que j'ai la joie d'accueillir cette année pour débuter avec une belle œuvre, Ars ou l'instinct de Dieu. Bonjour Raymond.
Bonjour France.
Merci de votre fidélité.
Mais merci et merci de m'inviter dans votre émission qui nous emporte toujours plus loin vers les chemins de la spiritualité.
Merci beaucoup. Vous commencez à être un habitué. Je crois que vous êtes celui qui vient le plus régulièrement, je dirais même le plus fidèlement.
Bon. Oui, merci. Merci. Merci à vous.
Alors vous êtes auteur prolifique, hein, de nombreux livres.
Oui.
25
25 à peu près, oui.
Oui, originaire de Bordeaux.
Tout à fait.
Dont nous avions parlé lorsque nous avions évoqué Mauriac.
Oui.
Vous avez une licence de lettres modernes à la faculté de Bordeaux. Bon, vous avez fait différents métiers, tous très surprenants.
Exactement.
Vous avez côtoyé Guy Lux.
Voilà, des milieux un peu disparates, oui.
Oui, mais c'est très intéressant quand même parce que vous avez... Pu vraiment découvrir d'autres horizons que celui de la littérature.
On peut se confronter avec la vie ainsi, de cette manière, oui.
Oui. Alors, vous écrivez depuis très longtemps, depuis l'âge de 17 ans.
De 17 ans, 18 ans, oui. Ma rencontre avec François Mauriac, j'avais 18 ans, voilà. Et mon premier recueil de poésie a été publié chez Latanor, Voyage au pays d'autrefois, voilà, et j'avais 20 ans.
Ah oui.
Voilà.
Alors, ma première question n'est en réalité pas la mienne, car c'est Amélie Nothon, avec laquelle vous avez une relation épistolaire, qui vous l'a posée un jour, mais cette question est évidemment pertinente, on n'en douterait pas venant d'elle, et j'aurais bien aimé vous la poser, mais elle l'a posée avant moi, donc je vais la... Voilà, elle vous a demandé... Pourquoi ce vieux curé vous intéresse?
Oui, elle m'a posé cette question un peu ironique, un peu bon.
Oui.
Eh bien, pourquoi? Parce que il m'a habité. Je l'ai prié longtemps, je pense que sa vie est un exemple. Un exemple d'offrande, un exemple d'authenticité, de souffrance. Et j'ai beaucoup aimé sa vie, sa prodigieuse vie. Voilà.
Alors, votre livre, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus léger grâce au carnet de voyage préambule de chaque chapitre. Néanmoins, on y retrouve quand même un petit peu votre style mélancolique, mais qu'on aime beaucoup.
Bon, très bien, très bien. Mais là, il faut insister parce que je n'ai pas voulu faire une biographie lambda. J'ai voulu surtout faire... un voyage à Ars, d'aujourd'hui à hier. Alors donc, il est des lieux qui sont habités et qui tirent leur réalité d'une présence, tel un visage échappé d'un linceul de sable, par exemple, indemne, comme oublié par l'oubli, et il en est ainsi d'Ars.
Oui.
Alors c'est pour ça que je dis « aller à Ars
»,
justement dans la même période de où est arrivé le Saint-Curé, c'est-à-dire en plein hiver, un hiver de 1818, lorsqu'il a découvert cette petite paroisse. Donc, il y a un parallèle. Alors, moi, le narrateur arrive à cette période, c'est noir, c'est la nuit qui tombe, et peu à peu, il se met dans les pas du Saint-Curé. Et alors, c'est synchrone. Il y a un extrait du carnet qui renvoie à une réflexion identique sur la vie du curé.
Oui, on peut complètement faire le parallèle.
Voilà. Sur les lieux, parce que j'insiste surtout sur les lieux. François Mauriac écrit dans Le Tourment de Jacques Rivière, les traces de Dieu ne s'effacent pas sur nos routes intérieures. Mmh. Et il est des lieux qui sont vraiment très importants. Quoi. On peut même citer la fameuse phrase de Proust, le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. Bon. Alors, donc cette biographie est plongée dans l'aujourd'hui, d'aujourd'hui à hier, à la rencontre du curé, du Saint-Curé, de sa vie, afin d'en approcher pas à pas depuis le 13 février 1818, où dans un jour blanc d'hiver, il aperçoit pour la première fois la paroisse d'Ars-en-Dombes. Oui. Et alors c'est la première et la dernière étape de son sacerdoce.
Oui.
Et alors il y a quelque chose de très symbolique parce que il y a une statue avec son index levé.
Oui.
Et il a dit vous m'avez montré le chemin d'Ars, je vous montrerai le chemin du ciel.
Oui. Il s'adresse à un enfant.
Et voilà, à des bergers, aux trois petits bergers. Mmh.
Voilà. Alors au début de ce voyage, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un rêve sur les traces de Jean-Marie Vianney.
Jean-Marie Vianney.
On y viendra après. Oui. L'homme, donc, dans un premier temps.
L'homme.
Puis le saint ensuite. Du reste, vous dites bien, cet homme-là s'est noyé parmi les hommes, donc on est complètement avec l'homme.
Absolument.
Alors cela m'a surpris de lire son nom sans son titre de saint. Il faut attendre sa mort, page 74, pour qu'il puisse être nommé saint.
Et oui.
Expliquez-nous pourquoi vous avez fait ce choix.
J'ai d'abord voulu montrer que sa vie est une ascension vers la sainteté. Mais d'abord, il faut souffrir. Mmh. Il faut mériter cette sainteté. Alors donc, cette définition qu'il donna un jour de son temps, lui que seul préoccupé le temps, échappé au temps, il dit « Nous vivons dans un bien pauvre siècle,
oui.
Cependant il pourrait être grand. Rappelez-lui sa pauvreté et sa grandeur. » Voilà. Alors, c'est déjà définir un moment de son histoire,
oui.
Parce que son intuition surnaturelle prenait racine dans son humilité. Et sa puissance sur les âmes, dans ce qu'il nommait son indignité.
Oui.
De même, cette vaste soif en lui de solitude, d'isolement, devait-elle devenir constamment maîtrisée, la force douloureuse qui lui permit de communier avec le monde pécheur. Mais pour ça, il a fallu qu'il paye de sa personne. Il a fallu que sur le plan de sa vie, il éclaire cette souffrance et qu'il la transcende aussi. Hein. Alors d'emblée, le rayonnement extraordinaire de Jean-Marie Vianney, voilà, c'est fondé sur l'apparente ambiguïté de son ouverture, de son aventure terrestre. Alors d'une part, il y a cette lumière visiblement ressentie par tous ceux qui l'abordèrent, parce qu'il y rayonnait, il attirait les âmes.
Mais du reste, vous parlez de solitude, mais il était entouré.
Voilà, voilà, c'est ça. Mais entouré et isolé.
Oui.
Voilà. Mais c'était un pêcheur d'âmes. Il a dit dans les âmes, c'est comme un matin. C'est comme une naissance. Mais il fallait qu'il procède à un accouchement, en réalité, pour les amener. Voilà. Alors donc, d'autre part, il avait cette insomnie peuplée de visions, d'appels, de signes, de tentations aussi, par le diable.
Bien sûr, oui. Terrible.
C'est terrible. Parce qu'il...
On en voit les traces du reste en visitant sa chambre.
Absolument,
où le démon a mis le feu.
Voilà. Alors, c'était
le grappin.
C'était le grappin, ouais. Voilà, les rats, quelque chose d'effroyable en fait. Mm. Et ces longues veilles dont il revenait vacillant, épuisé, rescapé de la nuit, et comme marqué par les stigmates d'un atroce affrontement.
Oui.
Voilà. Et c'est à partir de là, c'est une telle image qui aujourd'hui encore résume jusqu'à l'appauvrissement, pardon, cette figure de douleur et de pitié. C'est une image rassurante, paradoxalement, tant elle est simplificatrice, tant elle éloigne de nous une expérience assez saisissante pour nous passionner et trop exceptionnelle pour nous concerner, et d'ailleurs, dans son essence, indémontrable.
D'accord.
Alors, c'est un curé de campagne. Alors là, on peut faire, si vous voulez, la similitude avec Bernanos.
Oui, le journal d'un curé de campagne.
Le journal d'un curé de campagne. Et Sous le soleil de Satan. Alors, il y a l'abbé d'Aunisson et le curé d'Ambricourt. Alors, dans l'abbé d'Aunisson, il y a le parallèle parce qu'il est visité, il est visité par le diable, il est tenté par le diable, il tourne toute une nuit, etc. Et ensuite, il l'a dans un passage très prenant où il tend, on l'appelle au chevet d'un enfant mourant, et il tend vers Dieu, cet enfant, et brusquement, il ouvre les paupières, comme si il avait eu ce pouvoir. Bon, évidemment, très très limité, mais de le remettre à la vie. Mmh. Et d'autre part, quand on part du curé d'Ambricourt, c'est sa paroisse, et exactement comme la paroisse d'Ars.
Oui.
Et comment pourrait-on dire excusez-moi, je cherche les... donc, c'est une petite paroisse
perdue au fin fond de l'Ain.
Perdue au fin fond de donc son village vit comme Ars de peu de foi, dans une monotonie ennuyeuse et déprimante. Il se tient seul dans son presbytère où la pauvreté est son lot quotidien. Il est voué à tous les échecs et il se considère indigne, comme le saint curé, incapable de diriger une paroisse. Tout contrarie ses efforts et désarme sa bonne volonté. Alors, il y a cette fameuse confession avec la comtesse. La comtesse se confesse à lui et elle lui dit « L'espérance, je l'avais tenue, morte entre mes bras. » C'est ce fameux enfant qui est mort.
Oui.
Mais elle reçoit, avant de mourir, la paix et l'espérance du curé d'Andricourt. Voilà. D'où l'importance de la confession. Voilà, on peut insister sur la confession, parce que on peut dire que le curé d'Ars a passé sa vie à confesser.
Oui, évidemment, c'est pour ça qu'il est bien connu. Alors, on va faire une petite pause, Raymond.
Je vous en prie.
Voilà, c'est important pour nous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Raymond, je reprends une question que vous posez joliment dans votre livre. Qu'est-ce qui naît à la rencontre du ciel? Alors, ciel avec un C minuscule, mais on pourrait mettre une majuscule. Donc je reprends, qu'est-ce qui naît à la rencontre du ciel et des yeux?
Oui. Alors, ce qui naît, c'est un désir de ciel. C'est un appel, en quelque sorte. Le ciel, c'est le ciel, la vie, il m'en dit les mots, qui le fait naître et mourir. Le ciel, c'est une âme qui veille. Elle aime, elle souffre, et c'est aussi une soif.
Oui.
Un ciel est très beau le matin. Un ciel, c'est l'annonce de quelque chose de neuf.
Oui. C'est une espérance.
C'est une espérance, oui, tout à fait. Oui, c'est une espérance. Et comme si le cœur guettait ce qui se comme si le cœur guettait ce qui se perd dans la dormante immobilité de l'azur. Voyez, quelque chose de voilà. On peut aimer le ciel comme on aime la terre, comme on aime la création. Je le prends dans ce sens-là, voyez. Voilà.
Alors, ce livre n'est pas une biographie, ça, il y en a des dizaines. Non. Il a été écrit pour nous. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Oui. Il a été écrit pour nous permettre de nous scruter. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tous les cas, comme une petite voix qui pourrait être notre conscience. Alors, il y a une phrase plus particulièrement, alors que j'ai beaucoup aimée. « Entre tous les hommes, celui-ci a eu pour mission de nous rendre la sainteté possible, d'en semer en nous la confuse nostalgie. Désormais, nous n'avons aucune excuse à notre renoncement, sinon à celle de notre passivité, de notre paresse, de notre défaite. »
Voilà.
Donc, est-ce que vous aviez conscience que vos lecteurs auraient l'impression de pouvoir faire un petit peu un examen de conscience avant d'aller se confesser?
Enfin, c'est un peu le but, oui. C'est surtout un examen de conscience, c'est un retour sur soi et sur sa vie intérieure. Donc se dire, pourquoi le mal? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi le péché? Pourquoi la tentation? Mais on sait très bien que ça revient. Mais il faut toujours tendre, comme on dit, désespérer, c'est espérer encore.
Oui.
Donc il faut cet examen de conscience. Et là, comme vous dites très justement, le carnet de voyage permet de faire non seulement un voyage dans les lieux d'art, mais aussi un voyage intérieur, une sorte de voyage
d'introspection.
De l'âme jusqu'à l'âme. Voilà, et d'introspection, c'était ça. Le mot est juste.
Alors, Raymond, vous n'êtes jamais allé à Ars?
Jamais.
Mais pourtant, lorsqu'on vous lit, on a l'impression.
Ah ben voilà.
Alors, moi, c'est très amusant parce que lorsque le fait d'y être allée, je m'y suis retrouvée. Comment avez-vous fait pour que votre lecteur ait l'impression de reconnaître les lieux?
Alors, j'ai travaillé. Alors, d'abord, c'est la fiction. Hein. C'est le pouvoir. Disons que c'est le pouvoir de l'écriture, ça. C'est de donner à voir, de donner à vivre. Et d'autre part, je me suis beaucoup inspiré de photos, de lieux, de photos, et de souvenirs, paradoxalement, de souvenirs qui n'avaient rien à voir avec Ars, mais qui avaient aussi, qui m'y conduisaient, quoi. Hein. Notamment, évidemment, comme vous connaissez, moi, mes thèmes favoris, la nuit.
La nuit,
l'enfermement, cette espèce de quête.
Oui.
Voilà, de quête intérieure et puis ce désir aussi d'aller plus loin que soi. Toujours. Voilà.
Alors vous dites quelque chose de très beau concernant les saints. Vous dites qu'ils n'ont pas de vie, qu'ils n'ont qu'un destin, qui a pris leur vie pour prétexte. Alors vous dites qu'on ne peut faire de biographie de l'âme. Pourtant, c'est quand même bien ce que vous avez fait en l'occurrence.
Ben oui. Ils sont sans biographie, mais enfin, oui. Parce que si vous voulez, le saint, il est dans l'éternité. Bon. Et alors, sa vie, en réalité, vraiment, ça commence lorsque il est canonisé, lorsqu'il est saint.
Oui.
Voilà. Et comment aurait-il pu oublier son fardeau? N'était-il pas cloué à ses épaules? La tâche n'est pas achevée. Au contraire, elle commence. Elle recommence chaque jour et à chaque instant de chaque jour. Voilà. Le monde n'a jamais fini de se perdre. Hein? Le monde n'a jamais fini d'être sauvé. Un saint n'a pas le droit de mourir.
Hein? Il ne meurt pas.
Il ne meurt pas. Voilà. Il a fait sienne l'éternité.
Hein?
Et l'éternité de l'angoisse et de l'espérance. On ne ferme pas les yeux à un saint. Et on peut ajouter, il faut beaucoup d'amour pour aimer l'amour. Voilà, alors donc, voilà. Et ça sera toujours un pécheur d'âme.
Oui.
Voilà.
Oui. Dieu se sert des indignes pour faire honte aux dignes.
Voilà. Oui.
Alors, J'ai encore une petite question. Je vois le temps passer, mais nous avons encore un petit peu de temps, bien heureusement. Sous le silence du monde, on entend l'autre silence en allant à Ars?
Oui, il y a un silence surnaturel, en quelque sorte.
Oui.
Et...
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ?
Ah, qu'est-ce qu'il faut comprendre, oui. Ben, il faut le comprendre dans le sens d'une prière.
Mm-hmm.
Voilà. On peut dire presque que ce carnet de voyage, c'est un voyage en forme de prière.
Mm. Oui.
Voilà. Parce que prier, c'est prier avec le monde. C'est prier avec... On ne prie pas... On prie toujours à partir de quelque chose. Vous hein, voyez ? Bon, alors, ne tente pas de faire, dit-il, de faire de son silence une prière. Mais car dans le silence, le cri du Christ lui-même s'est perdu. Hein ? Le Christ en croit. C'est cette fameuse croix qui est dans la terre, qui est charnelle. Et le cri, l'espérance est ailleurs. Parfois, elle se montre dans un regard, dans une larme. Elle se cache
oui.
pour des raisons qu'on ne devine pas. Comme pour épuiser le ciel qui est en nous, afin d'être une âme pour une autre âme. Le temps coule, mais la foi veille.
Mmh.
Voilà.
Alors, vous êtes toujours très poétique. Cet Merci. Homme de la terre, ce laboureur de cendres,
ah,
jetait
oui.
des graines là où il pouvait.
Ah, oui.
De ses sillons, que demeure-t-il, André ?
Exactement.
Vraiment.
Parce que c'était un cultivateur, d'abord.
Mais oui, c'est ça.
Il cultivait son champ. Et pour lui, c'était quand il labourait, il fallait que ça soit droit. Il fallait qu'il aille. Et il a toujours gardé cette humilité. C'est quand il allait avec ses mains rougies, rugueuse, et il a semé des graines comme on sème des âmes.
Oui.
Voilà. Et il en a récolté beaucoup. Hein. Et son vrai miracle, ben c'est son miracle permanent. C'est voilà. C'est le miracle de par exemple. Quand il a commencé ses sermons, il était là du haut de sa chair, comme un grand Pierrot coupable, et devant lui, il y avait des âmes
oui.
Incultes qu'il devait convertir.
Oui.
Alors il lui dit, alors convertis-moi, conduis-moi à Dieu. Mmh. Et il était très angoissé. Il a dit, je n'y arriverai pas.
Oui, voilà. Oui, du reste, on en parlera plus tard, mais enfin, dans la deuxième partie de l'émission, il a fui plusieurs fois. Vous parlez de d'âme coupable,
oui.
Parce qu'il portait en lui une culpabilité. Alors, j'ai découvert ça, que pendant la guerre d'Espagne, il aurait dû être mobilisable par un concours de circonstances providentielles. Ouais. Vraiment, il n'a pas cherché à se dérober. Mais il s'est retrouvé dans le Forez, et
voilà.
Où il a passé oui. le temps de cette guerre sur les lieux auprès de l'abbé, comment est-ce qu'il s'appelait le père ?
L'abbé Ballet.
Voilà.
Ballet.
Et alors il était là-bas sous le nom de Jérôme Vincent.
Oui.
Et c'est son frère qui a dû partir, et il est mort.
À sa place.
Et il est mort là-bas.
À sa place.
Donc nous parlions de culpabilité.
Voilà.
Cette culpabilité, il l'a toujours ressentie,
ah oui.
sans doute. Est-ce que vous pensez que cela l'a porté pour aller chercher des âmes en peine ?
Oui, sans doute, oui. Mmh. Sans doute, parce que c'était une grosse culpabilité, je sais bien. Ouais. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bon, nous sommes... Mais il a connu, évidemment, la fin de la monarchie.
Oui.
Ce temps...
Ah, mais du reste, vous dites une belle phrase. Attendez, je vais ressortir ça.
Mais oui.
Vous parlez de la France de 1786.
Voilà.
La France est encore un beau blason doré sur champ d'azur, intact, sans éraflure, et ses étoiles sont des lys.
Et oui.
C'est délices. Cette France dont vous
voilà,
parlez.
Cette France éternelle, cette France de la monarchie.
Elle vous rend nostalgique ?
Moi, oui. Mais peut-être, bon, le roi ne reviendra peut-être plus, mais on en avait besoin.
Disons que c'était une certaine manière de gouverner la France, puisqu'il n'était pas
Exactement.
Avidité, je dirais presque même.
C'était l'union du trône et de l'autel.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et bon, alors donc après, vient la terreur. Vient oui. la constitution du civil du clergé, mmh. vient les prêtres jureurs.
Oui.
Et donc l'abbé Ballet,
oui.
est curé des Cullis. Hein,
oui, à côté
et,
de Lyon, oui.
Voilà, où il a commencé son diaconat d'ailleurs, se charge de son instruction. Et il lui a demandé il lui a dit ne pas trahir ton Christ. Ouais. Voilà. Je te propose au contraire de l'aider à supporter sa croix, la plus lourde et la plus oubliée. Et alors, il y a également dans ce... Pardon ?
Il nous reste une minute.
Ah oui, je suis peut-être trop long, excusez-moi.
Non, très bien.
Oui. Et il a... pendant toute cette période, évidemment, il n'était pas encore vraiment dans la foi, quoi. Hein, il fallait qu'il apprenne. C'est un mauvais élève. Il est très rétif.
Élève qui a beaucoup de difficultés, c'est pas la même chose qu'il en voulait quand même. Hein.
Ah oui. Oui.
Alors, écoutez, nous allons continuer la semaine prochaine, si vous voulez bien, cher Raymond. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que nous accueillons cette semaine Raymond Magnan, voilà, qui est venu nous présenter son manuscrit Art sous l'instinct de Dieu. Donc, vous êtes à la recherche d'un éditeur. Nous poursuivrons notre voyage dans ce village qui s'appelle en réalité Ars-sur-Formant depuis 1956. Est-ce que vous saviez que Ars veut dire la brûlée ?
Ah non.
Eh bien voilà. Et ses habitants sont des Arsois. J'ai fait un peu de recherche. Voilà, le bourg actuel est 3 fois plus grand que celui que nous avons connu sous le Saint-Curé d'Ars. Voilà le décor dans lequel nous poursuivrons l'émission dimanche prochain. Merci Raymond et merci chers auditeurs de votre fidélité.
Merci beaucoup.